Écoutez, c'est comme tous les champagnes. Il y en a des bons, il y en a des très bons, il y en a des beaucoup moins bons. Eh bien, c'est pareil, puisqu'en fait, ça dépend bien sûr de la qualité de l'année et puis aussi du vinificateur.
Bonjour, je suis Willy Billiard.
Bonjour, je suis Yann Tourbe.
Et ensemble, on va tenter de démonter les idées reçues sur le champagne.
Un podcast Lest Éclair, réalisé en partenariat avec la destination touristique La Champagne.
Yann, est-ce que le champagne évolue? Enfin, je veux dire, est-ce que ça suit les tendances? Par exemple, on fait de plus en plus de bio en ce moment un peu partout. Est-ce qu'on en trouve aussi dans le champagne?
Alors, oui, on fait de plus en plus de bio en champagne. Ça se voit surtout depuis ces dernières années. Mais bon, c'est pas vraiment à moi de te dire ça. Je suis allé poser la question à Jean-Pierre Fleury, qui est le patriarche de la biodynamie en champagne. Il a lancé son domaine dans cette voie-là en 1989. Écoute un peu ce qu'il m'a dit.
Oui, effectivement, parce que sur les 30 et quelques mille, 33 000 hectares, on est un petit 3%, 1000 hectares. Et encore, il y en a beaucoup en conversion depuis cette année ou l'année dernière, parce que là, on peut dire que ça explose, sans faire de jeu de mots avec le champagne. Mais il y a une belle palette de jeunes qui s'y mettent depuis cette année et l'an dernier. Quoi.
Ouais, enfin, pour l'instant, visiblement, ça reste une niche, hein.
Oui, c'est vrai, 3% c'est quand même pas énorme, surtout quand on compare à des vignobles comme l'Alsace ou les vignobles du sud de la France qui sont beaucoup plus orientés en bio ou en biodynamie. Mais il y a des arguments pour ça. Par exemple, il y a un argument économique.
Alors, la problématique principale, à mon avis, on a peur de pas faire l'appellation. Et quand je dis pas faire l'appellation, c'est pas 10 000 ou 12 000 kilos hectares, c'est 15 000 kilos hectares. Il y a des habitudes en Champagne qui sont... à mon avis, qui sont arrivés dans les années 85-90, où les gens qui ne faisaient pas 15 000 hectares, ce n'étaient pas des bons vignerons.
Ok, côté économique, je vois, mais tu parlais d'arguments au pluriel.
Oui, alors, il y a un autre argument, qui est l'argument le plus utilisé en réalité, qui est l'argument climatique.
Alors, le problème en Champagne, la région la plus septentrionale de la vigne, il y a des aléas climatiques importants, le gel de printemps, mais surtout le risque de mildiou, une maladie qui attaque les feuilles et éventuellement le raisin quand c'est très très pluvieux et chaud en même temps. Et ça peut détruire une récolte. Donc nous, en bio, en biodynamie, on n'a que des produits préventifs, si je puis dire, ou des produits de contact qui sont facilement lessivés, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas sur les feuilles ni sur les raisins, et qui peuvent faire gâcher toute une récolte, perdre toute une récolte.
Ok, on fait une parenthèse là. C'est quoi un produit de contact, d'après Jean-Pierre Fleury?
Alors, écoute, un produit de contact, c'est tout simplement un produit qui va rester à l'extérieur de la plante et qui va la protéger. Donc, c'est vraiment uniquement du préventif. Mais d'ailleurs, Jean-Pierre Fleury, il y a une image pour définir les produits de contact, mais vas-y, écoute plutôt.
Et là, j'espère que je ne vais pas choquer les oreilles chastes qui vont écouter cette interview. Pour réussir avec notre type de production bio-biodynamie, j'avais dit une fois à un journaliste, il faut coller à sa vigne comme on colle au ventre de sa maîtresse. C'est une image qui parle, je crois, mais mon épouse avait lu l'article peut-être 8 jours auparavant et je me suis fait tirer les oreilles quand même.
Faut coller à sa vigne comme on colle au ventre de sa maîtresse. Oui, j'aime bien ça, mais encore.
Alors, les produits de traitement qui permettent de lutter contre ces maladies-là. Pour le mildiou, c'est le cuivre sous différentes formes. Et pour l'odium, c'est le soufre.
Yann, de toi à moi, le bio en champagne, est-ce que ça marche vraiment?
Alors, oui, ça fonctionne. D'ailleurs, les fleuries ont peu de problèmes. Écoute un peu ce que dit Jean-Pierre.
Je suis en biodynamie depuis 1989. Et malgré tout, si on regarde les 10 dernières années, j'ai fait... environ 10 200 kilos de récolte à l'hectare, en comptant l'année de gelée catastrophique de 2016. Si on l'enlève, je crois qu'on est autour de 11 000 kilos à l'hectare. Donc, l'appellation, de façon générale. Quoi.
Ah oui, il y a du rendement, c'est indéniable. Mais est-ce que la qualité est au rendez-vous, finalement?
Alors, en réalité, la question que tu es en train de me poser là, c'est est-ce que le champagne bio est bon?
Oui, accessoirement.
Voire même, est-ce que le champagne bio... et meilleur que les autres.
Oui, accessoirement.
Je suis gentil avec toi, j'ai posé la question à Jean-Pierre.
Écoutez, c'est comme tous les champagnes, il y en a des bons, il y en a des très bons, il y en a des beaucoup moins bon. Eh bien, c'est pareil, puisqu'en fait, ça dépend bien sûr de la qualité de l'année, et puis aussi du vinificateur. Mais ce qu'aperçoit dans la biodynamie, comme je le fais depuis 30 ans, c'est comme on fait plonger les racines au plus profond du terroir jusqu'à 10 litres à la roche-mère, on a tous les étages aromatiques du terroir. Et ça se ressent dans la complexité du champagne.
Et du bon bio, ça coûte cher une bouteille de bon bio ?
Alors écoute, oui, c'est généralement un peu plus cher. Pas forcément tant que ça, hein, parce que les bons champagnes sont toujours chers. Mais un champagne bio sera en moyenne entre 20 et 30% plus cher.
C'est quand même visiblement un produit à la mode, quoi.
Alors, on ne va pas parler d'effet de mode, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a largement dépassé l'effet de mode.
Alors, je peux dire que voilà quelques années, c'était une mode, surtout suivie par les bobos, si je le dis comme ça. Mais maintenant, c'est une tendance de fond qui arrive. Le consommateur veut des choses propres, quelle que soit l'alimentation, légumes, fruits, et également les vins. Le moins possible de sulfite, etc., etc. Et je pense que là, la Champagne, elle a de beaux jours devant elle si elle suit ce chemin-là.
Attends, on parle de bio là depuis tout à l'heure. Lui, il parle de biodynamie. C'est quoi la différence ?
Alors, écoute, le bio et la biodynamie sont deux modes de production qui, en réalité, sont différents. Ils ont des points communs et des différences. J'ai demandé à Jean-Pierre de nous expliquer.
Je vais commencer par dire ce qui est en commun. C'est-à-dire interdiction totale d'utilisation de produits chimiques de synthèse. Ça, c'est une constante pour les deux types de production. En biodynamie, nous avons des préparations, peut-être je vais les citer seulement parce que c'est extrêmement compliqué, la préparation 500 et puis la préparation 501, bouse de corne et silice de corne, qui vont nous permettre de mettre en relation, si je puis dire, toutes les énergies qui nous viennent du cosmos, avec les énergies de la Terre. Et ça, à des moments cosmiques précis. On a un calendrier planétaire qui nous guide quand c'est très positif de faire ces opérations ou pas.
Excuse-moi Yann, il serait pas un petit peu perché là, ton Jean-Pierre ?
Non, t'inquiète, il est même pas entré en lévitation après m'avoir dit ça. Hein. Tu sais, la plupart des gens que je connais qui sont en biodynamie sont des gens qui, en réalité, sont très pragmatiques.
Je tiens à dire que pour moi, la biodynamie, c'est une agriculture scientifique du XXIe siècle dont on connaît à peine les balbutiements, mais qu'on approfondit de plus en plus et qui donne, par exemple, des interactions avec les champignons, les insectes, toute la biodiversité, sol et sous-sol et arbustes, etc., qu'on peut mettre en œuvre maintenant avec l'agroforesterie. Et on voit vraiment une différence très importante dans des analyses biomoléculaires.
Bon, une dernière chose pour finir, le champagne se consomme avec modération.
Et on se retrouve au prochain numéro.